On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour terminer la semaine. On se dit tout, c'est tous les soirs entre 20h et 22h. Vous avez la parole chaque soir, on choisit un thème ensemble et c'est vous qui venez en parler. Le thème qu'on a choisi ce soir, les passions et si possible, les passions insolites, les passions dont on parle peu, qui suscitent parfois des réactions. Si vous aimez les films en noir et blanc ouzbek par exemple, eh ben c'est le moment. Si vous aimez les morts vivants, ben c'est le moment d'en parler. Vraiment, vous avez la parole. Vous êtes tous les bienvenus, comme chaque soir, jusqu'à 22h.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu, avec Vanessa Lambert.
Et ce soir, vos histoires sont plutôt rigolotes, détendues, puisqu'on parle des passions, pas n'importe lesquelles, des passions plutôt insolites, dont on parle peu généralement, ou dont on n'ose pas parler, parce qu'on a souvent peur des réactions des gens. En genre, à 40 ans, t'es encore fan de ça, c'est un petit peu bizarre. Ce soir, c'est pas bizarre, il n'y a pas tabou, et vous avez surtout la parole, comme Fred, qui nous a rejoint depuis la Bretagne. Bonsoir Fred.
Bonsoir tout le monde.
Alors vous êtes fan de Lego.
Exactement, je suis fan de Lego depuis quelques années.
Et vous avez quel âge ?
J'en ai 45.
Ben voilà, c'est bien de le dire aussi. C'est compliqué parfois de le faire comprendre aux gens qu'on aime les Lego quand on a 45 ans ?
C'était dur au début. Maintenant, les expos font que les gens acceptent et comprennent très bien. Bien au contraire, ça passe beaucoup mieux maintenant.
Ça a commencé quand vous étiez petit ?
Alors j'ai commencé quand j'étais gamin. J'ai arrêté à l'adolescence. Et puis il y avait autre chose à s'occuper. Et puis j'ai recommencé quand mes enfants sont arrivés à l'âge de commencer à jouer à ça. Et puis j'ai remis le pied dedans, donc je m'arrête plus.
Mais c'est-à-dire que vous jouez plus que vos enfants en fait aujourd'hui ?
Jouer non, monter oui. Je passe des heures à monter, c'est une détente, c'est un plaisir de le faire.
Et vous inventez vos propres décors ou est-ce que vous suivez comme sur les boîtes pour faire exactement pareil ?
Alors moi je fais les deux, c'est-à-dire que j'utilise les boîtes qui viennent de la maison mère avec les photos, les plans et tout ça, je le suis. Et là pour l'instant je suis en train de construire, pour donner un ordre d'idée, un manège qui va faire à peu près 1m20, 1m30 de hauteur et je suis en train de faire comme ça au feeling.
Et est-ce que les Legos de votre enfance sont les mêmes Legos qu'aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours les mêmes petites pièces, les mêmes couleurs ou est-ce que ça a évolué ?
La brique restera toujours la brique. C'est les imbricables, ils rentrent les unes dans les autres, ça restera. Mais les choses ont évolué depuis le temps. Il y a quelques années, vous avez toujours les choses classiques. Maintenant, vous avez des camions, vous avez des voitures, vous avez des maisons, vous avez des hélicoptères. Vraiment, tout a évolué. On est parti dans une génération avec les Star Wars et tout ça, où ça a pris un volume énorme.
Ça prend, quand vous parlez de volume, ça prend de la place aussi chez vous ?
Ça prend une pièce complète.
Ah oui, bien. Et une fois que c'est construit, c'est fini pour vous. Vous amusez pas avec, vous faites pas de mise en scène. C'est juste la construction et c'est terminé.
Moi, je les construis. Et une fois que j'ai fait, je les expose dans mon... J'ai un bureau, en fait, qui a été transformé en pièces Lego. Il y en a partout. Il y a des étagères partout. Il y en a partout. Et régulièrement, je vais en exposition. Donc, tout part avec moi et on les présente sur les expos. On fait des scènes avec. On fait créer des scènes avec ces choses-là. Mais c'est pour notre bonheur, quoi.
Et il n'y a jamais eu d'accident, vous savez, cette grande tour en Lego qui tombe d'un seul coup alors qu'on a mis des semaines entières à la monter ?
Si, c'est arrivé il y a 15 jours.
Aïe ! Et alors, qu'est-ce qui se passe ?
On râle sur soi, on se râle dessus, on peste un peu, puis comme il y a du monde, on crie pas trop fort. Et puis on se dit, bah, allez, on va le remonter, et puis en 2-3 heures, on le monte quoi, dans la nuit, pour le lendemain matin, pour l'expo, il soit prêt. Quoi.
Vous les achetez où, vos pièces Lego ? Parce qu'on sait qu'il y a des boutiques aujourd'hui dans les grandes villes d'Europe et du monde. Est-ce qu'il y en a près de chez vous ? Est-ce que vous fournissez là-bas ? Comment vous faites ?
À mon grand malheur, j'aurais aimé qu'il y ait un magasin pas loin. Franchement, ça m'aurait pas déplu, mais non, parce que le plus proche, c'est Paris. Mais nous, on s'achète beaucoup, c'est sur le net. Beaucoup, c'est sur Internet. On a des sites marchands pour acheter là-dessus. On a nos magasins référents ici dans le coin à lequel on achète. Mais les grosses pièces qu'on veut, c'est par exemple, c'est sur Internet. On n'a pas le choix.
Et puis surtout, pour inventer ses propres constructions, là, il faut imaginer, tiens, j'ai besoin de tant de briques, des 6 rouges, des 2 jaunes, des 8 verts. Enfin, ça se passe comme ça, non ?
On a des logiciels qui nous aident à travailler là-dessus.
Oh là là, les tricheurs !
Bah ouais, parce que quand on aime, on compte pas. Et bon, heureusement, on a ça qui nous aide. Après, on va sur Internet, on arrive à trouver des plans. Moi, là, il y a des plans que j'arrive à retrouver, que des gars mettent en ligne. Donc, je récupère les plans pour le travailler dessus. Après, on fait tous les foires aux puces qu'il y a dans le secteur. Et puis, on va acheter les gens qui n'en veulent plus, qui s'en débarrassent. Et ils les vendent. Et là, pas plus tard que l'autre jour, j'ai une dame qui est venue me dire, si ça t'intéresse, j'ai un grand carton. Je vais la voir quand j'ai vu le carton. Je dis, ah ouais, je le veux bien, ton carton, je veux bien de l'acheter, ouais. Il y avait un volume énorme dedans, quoi.
Elle se rendait pas forcément compte du trésor que c'était.
Non, ça l'intéressait pas. Ouais. Les enfants sont grands, leurs enfants n'en voulaient pas, donc voilà.
C'est ça coûte cher, les Lego. Enfin, en tout cas, en magasin, on sait que c'est cher, mais par exemple, sur les brocantes, les vides-greniers, est-ce que les prix montent parce que les gens savent qu'il y a une demande ?
C'est vrai que depuis quelques années, les prix ont vachement évolué. Les gens se sont rendus compte qu'il y avait de la demande. On voit de plus en plus, la télé fait en conséquence, on en parle de plus en plus. Donc les gens se sont dit, c'est logique, hein, il y a l'offre et la demande. Et là, il y a beaucoup d'offres, mais il y a beaucoup de demandes. Automatiquement, le prix est en train de monter, quoi.
Et c'est quoi votre rêve suprême, Fred, en Lego? Qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête et que vous aimeriez monter en Lego?
Ce que j'avais dit un jour à vos confrères, parce que j'ai fait une expo il n'y a pas longtemps, et ils me demandaient qu'est-ce que serait mon rêve justement de le faire. J'avais une petite commune dans le Finistère, ça s'appelle Cizun, et il y a une des huit plus belles arcs de triomphe de France. Et mon rêve, c'est de la reconstruire en Lego, pas en taille normale, mais pour la présenter du style 1 mètre, 1,50 mètre de long. Ce serait mon rêve. Mais ça, ce sera quand j'aurai le temps, vraiment le temps de le faire.
Moi, j'allais vous dire au boulot, Fred, là, on y va, hein?
Non. Le boulot déjà prend beaucoup, donc ça en plus, c'est ma détente. 2 heures d'après-midi, ça me suffit, ça me détend.
Mais merci d'avoir partagé votre passion pour les Lego. On était ravis de vous avoir ce soir dans On se dit tout. Bonne soirée à vous, Fred.
Merci à vous et bon week-end.
Bon week-end, au revoir.
Merci, au revoir.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout.
Et on découvre vos passions ce soir dans On se dit tout. Des passions connues, hein, comme Fred à l'instant qui nous parlait de ses Lego. Et puis des passions un peu moins connues. C'est le cas avec Pauline qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Pauline.
Bonsoir.
Alors vous, votre passion, ça a été, et c'est encore quand même aujourd'hui, le roller derby. Et là, c'est pareil, il va falloir nous expliquer, Pauline.
Alors, normalement, je fais des grands gestes pour expliquer, donc à la radio, ça va être un peu difficile. Mais le roller derby, c'est un sport à la base féminin, et quand même majoritairement féminin, d'équipe, qui se joue sur des patins à roulettes, c'est-à-dire des rollers où les quatre roues ne sont pas alignées, mais à l'ancienne, quoi. Mmh. Et ça se joue sur une piste ovale, plate, pas comme ce qu'on peut avoir l'habitude de voir au cinéma, dont je parle, de roller derby avec des pistes inclinées, non, c'est plat. Et en fait, il va y avoir 8 joueuses, donc 4 de chaque équipe qui forment ce qu'on appelle le pack, ce sont les bloqueuses. Et elles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de cette piste. Et il y a une joueuse de chaque équipe, la jammeuse, l'attaquante, qui doit dépasser à chaque fois ce pack et faire des tours plus vite. Et donc, à chaque fois qu'elle dépasse une bloqueuse de l'équipe adverse, elle marque un point. Et donc, le but pour les bloqueuses, c'est d'aider la leur à passer et d'empêcher l'autre de passer. Et pour ça, on peut s'aider de ses épaules, de ses hanches, de ses fesses, mais surtout pas de ses coudes, de ses genoux ou de ses bras, puisqu'on n'a pas le droit de donner de coups, de poing, de coups de coude, tout ça, c'est absolument interdit. On n'a pas le droit de taper à la tête ni autour de la colonne vertébrale, mais sinon, tout le reste...
Pas aussi violent que certains veulent bien nous le faire croire parfois, disant « Oh là là,
c'est
le roller derby,
de
c'est violent !»
C'est un sport de contact. C'est l'équivalent du rugby sur patin.
J'essaie de visualiser.
Des échecs parce qu'il y a, voilà.
D'accord. Et comment ça vous est venu? Comment on découvre un jour le roller derby et on se dit « Tiens, j'ai envie de faire ça ».
Comme 80%, je dirais, des filles qui font du derby en France, avec le film de Drew Barrymore, Bliss, qui s'appelle Whip It en anglais, qui était sur le derby, alors là, qui est très très romancé par rapport au rugby. Typiquement, elles se mettent des patates et elles sont sur une piste inclinée. Mais pour le coup, c'est tout à fait l'esprit du sport, dans le sens la camaraderie, c'est un sport qui est extrêmement fair-play, c'est toute une communauté, parce que comme tous les sports méconnus, forcément, on est obligé de s'organiser entre nous. Donc tout l'esprit est vraiment dans ce film. Et donc, comme beaucoup de gens, j'ai vu ce film. Et là, j'ai voulu en faire. J'ai cherché Roller Derby Paris sur Google. Et à l'époque, il y avait une fille qui était en train de monter une équipe et qui disait « Ah, je vais monter cette équipe et tout. » Mais je me disais « Oh là là, je peux pas être au début d'un sport. Moi, je sais à peine faire du roller. Je vais pas créer un sport en France. Enfin, ça a pas de sens. » Et 2 ans plus tard, j'ai un copain photographe qui a fait des photos d'une équipe existante. Ça m'a rappelé que ça existait. Et voilà, là, j'ai... Et au final, je suis quand même arrivée à la création d'une équipe. Donc, on a tout fait depuis le début et on s'est appris...
C'est génial d'être au début d'une histoire, vraiment. Et puis, au début de l'émergence, peut-être, d'un sport aussi en France qui, jusqu'ici, est pas très, très connu, faut dire ce qu'il y est.
Et ouais, et pourtant, c'est le sport à la croissance la plus rapide dans le monde, en Europe et en France.
Ah ouais.
Moi, quand j'ai commencé, il y avait 5 équipes en France. Quand j'ai arrêté il y a 2 ans, il y en avait 90.
Ah, vous avez arrêté le roller derby, alors? C'est fini,
oui,
l'aventure?
J'ai arrêté. C'est fini, je sais pas pour combien de temps. Peut-être que ça reprendra. Parce que je suis encore, j'ai encore plein d'amis qui en font, puis ça me manque.
Et puis quand je vous entends parler, c'est fini, mais c'est pas fini quand même, là, j'ai l'impression, Pauline.
Ah, mais le derby, quand ça rentre dans votre vie, ça mange votre vie. Hein. On mange derby, on boit derby, on dort derby. D'ailleurs, les petits copains et les petites copines des gens qui font du derby, on les appelle en anglais des derby widows, c'est des veufs et des veuves de derby, parce qu'ils n'ont plus leur partenaire tellement ils passent de temps. Voilà, mon copain à l'époque n'en pouvait plus d'entendre parler de derby toute la journée.
Et alors, quand on en parle, parce que c'est aussi le but de cette émission, on parlait d'une passion dont les gens connaissent pas grand-chose, les gens comprennent facilement ce que c'est, les gens adhèrent aussi au roller derby?
Il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de clichés. Les gens pensent tout de suite que c'est de la baston. Et puis aussi, il y a eu un revival. En fait, c'est un sport qui date des années 20 et qui a eu un revival dans les années 80 où c'était comme du catch. Donc, c'était vraiment simulé. Alors, c'était très violent, mais tout était simulé, répété. Et ensuite, c'est né sous sa forme actuelle en 2001 au Texas. Et donc, effectivement, les gens s'imaginent tout de suite un truc genre rollerball, quoi. Ou alors, ils me demandent où est le ballon. Il n'y a pas de ballon dans la sport, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime ce sport.
S'il y a des mamans qui nous écoutent et que leur fille vient de dire « Maman, j'ai envie de faire du roller derby », vous pouvez les rassurer, Pauline.
Ah mais go, il faut y aller. C'est un sport complet. C'est un sport aussi pour tous ceux qui n'aimaient pas le sport et qui se sont découverts à travers ça. C'est une passion, c'est des amis pour la vie. C'est un sport extrêmement fair-play, extrêmement intelligent, parce qu'il y a 80 pages de règles, c'est un truc de stratégie, vraiment. Il faut. C'est un sport féministe, et ça, c'est très important.
Ah ouais, féministe ? À quel moment on se dit, il est féministe, ce sport ? Comment ça se sent ? Comment ça transpire, le féminisme, dans le roller derby ?
Eh ben, il a été monté par les patineuses. Et même en 2001, quand il a commencé, c'était un type qui a voulu se faire de l'argent un peu sur le dos des nanas en faisant des spectacles de roller derby inspirés, parce que c'était dans les années 80. Et elles l'ont viré, en fait. Et elles ont repris le truc à leur manière. Et c'est le seul sport, enfin la fédération est entièrement gérée par les patineuses, c'est pas du tout business en fait. Et il y a des valeurs féministes assez importantes, c'est un sport qui est quasiment intégralement féminin, même si maintenant il commence à y avoir des ligues masculines et qu'on les accueille avec plaisir. Hein. Mais voilà, c'est un sport féminin, collectif, de contact, donc oui, et puis ça porte des valeurs féministes, do it yourself, assez fortes en fait.
Girl power, donc le roller derby, on a bien compris. Ouais. Merci beaucoup Pauline d'être venue nous présenter votre passion et vraiment mais nous présenter ce sport qui n'est pas encore très très connu en France et c'est bien dommage. À bientôt Pauline.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et ce soir, on parle de vos passions, des passions insolites, peu communes, qui font un petit peu réagir. Les gens vous regardent de travers en disant « d'accord ». Et on en parle avec vous jusqu'à 22h sur France Bleu et c'est Daz qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Daz.
Bonsoir Vanessa.
Alors vous êtes fan de sneakers, qui n'a rien à voir avec les barres de chocolat, on est d'accord?
Oui, tout à fait. On dit basket en français, même si c'est pas un mot français, c'est pas grave, en général.
Mais c'est quoi la différence entre la sneaker et la basket?
Ouh, alors là on rentre dans un débat philosophique.
Donc vous aimez les baskets, on va le dire comme ça.
Voilà, j'aime les chaussures, qui sont plutôt apparentées, chaussures de sport on va dire. Voilà.
Chaussures de sport, mais que vous ne portez pas pour faire du sport, je suis sûr.
Mais qu'on porte, voilà, qu'on peut porter surtout, enfin on peut les porter pour faire du sport, mais on peut surtout les porter dans la rue pour la vie de tous les jours.
Ça a commencé donc comment, cette passion-là? Parce que c'est...
Oh là là, c'est une longue histoire. En fait, je pense que ça remonte aux années 90, au début des années 90, quand les fabricants se sont rendus compte qu'on pouvait transformer la chaussure de sport en vrai objet de désir, entre guillemets. Hein.
De désir.
Voilà. Donc, notamment avec, par exemple, pour moi, hein, de ma stricte expérience à moi, c'était l'époque Run DMC qui avait fait un morceau qui s'appelait My Adidas, où ils parlaient de leur Adidas Superstar, qui étaient des baskets assez classiques, ma foi, qu'on peut toujours trouver d'ailleurs en magasin aujourd'hui, donc 30 ans plus tard. Et puis ensuite, après ça, on a eu la grande période du basket américain, avec Michael Jordan, Magic Johnson et tout ça. Et puis, tous ces joueurs avaient leur paire signature, en fait. Air Jordan, Patrick Ewing avait sa marque, etc. Donc en fait, naturellement, en tant que jeune adolescent, à l'époque.
Vous vouliez les mêmes baskets, en fait.
Oui, voilà, en fait, on a été touché de plein fouet par cette vague-là. En plus, ils prenaient exprès des designers qui faisaient un vrai travail de recherche et de création sur les modèles, avec telle chaussure qui ressemble à un avion de la Seconde Guerre mondiale, telle autre chaussure qui ressemble à une voiture, telle autre chaussure qui emprunte au code du luxe, etc. Donc, on est vraiment tombé en plein dedans avec le marketing qui allait bien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, on était jeunes, donc on n'avait pas trop d'argent, donc on ne pouvait pas se les acheter.
Et j'allais vous poser la question, ouais, c'est ça, c'est pas forcément évident de demander à ses parents une paire de chaussures qui coûte cher.
Ah ben oui, voilà. Oui, c'était à l'époque, hein, moi, les Jordan, la paire dont je me rappelle le plus, c'était les Jordan que j'ai eues en 1992, elles coûtaient 949 francs à l'époque, ce qui était une somme, hein,
C'est énorme, bien sûr.
Ouais. Ouais. C'était 949 francs de l'époque, donc c'était près de 150 euros, mais à remettre dans le contexte. Donc pour moi, ça, c'était un cadeau de Noël et d'anniversaire combiné, en fait. J'avais tanné mes parents pendant à peu près 8 ou 9 mois pour qu'on me les prenne.
Les parents qui comprenaient absolument pas, j'imagine, d'ailleurs. Mais t'es fou d'avoir des chaussures à ce prix-là, tu vas les abîmer au bout de 6 mois, non, il n'y avait pas ça aussi?
Non, c'était évident, oui, pour eux, c'était un achat complètement ridicule. C'était des paires, en plus, qui vraiment, sur un plan purement esthétique, tranchaient avec ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc c'était vraiment des matériaux qu'on n'avait pas l'habitude de voir, les bulles d'air apparentes et ce genre de trucs. Personne comprenait, en fait, ils disaient, vous êtes complètement cinglés, les jeunes. Et en fait, le coup de génie des marques, ça a été de s'adresser à tous ces enfants comme moi qui étaient un petit peu frustrés de pas pouvoir s'acheter ce qu'ils voulaient, de s'adresser aux adultes qui sont devenus, en fait, avec des salaires qui tombent à la fin du mois, et de rééditer exactement les mêmes modèles. Et c'est là vraiment qu'on est tous retombés dedans, finalement. Parce que du coup, tous les modèles inaccessibles de l'époque devenaient maintenant potentiellement achetables, moyennant quelques écus.
Oui, quand même, ça coûte toujours un certain prix. Mais ça veut dire que combien de paires vous avez aujourd'hui de baskets?
Aujourd'hui, j'en ai entre... Le compte n'est pas fixe, mais en gros, entre 110 et 120 paires.
Que vous portez ou faut absolument pas les porter, les chaussures?
Si, moi je les porte justement. En fait, après, dans ce milieu-là, on a les vrais cinglés qui sont capables d'acheter des paires en double ou en triple. Une pour porter, une pour conserver et une pour exposer. Moi, je fais pas ça. Moi, toutes les paires que j'achète, je les porte, en fait.
Elles s'abîment, comment vous faites, Daz? Ça doit être horrible de s'en séparer.
En fait, ce qui est chouette, c'est que comme le marché est considéré comme un marché viable, en milliards de dollars en termes de valorisation, en fait, il y a plein d'acteurs annexes qui se sont positionnés dessus, dont des gens qui sont spécialisés dans les produits de nettoyage et qui sont capables de sortir des produits
bien entretenir,
pour blanchir les semelles, etc. Et puis après, en fait, ce qui se passe, c'est que comme j'ai plus d'une centaine de paires,
bah oui, c'est ça.
Je les porte pas toutes en même temps, voilà. Donc en fait, je fais une rotation et finalement, moi, les paires, j'ai encore des paires que j'ai achetées on est en 2017. J'ai encore une paire de Jordan 4 Metallic Silver qui date de 2002, je crois.
Voilà, Metallic Silver, j'adore.
Oui, alors voilà.
Alors, on sent que vous êtes un puriste, hein, vraiment. Juste un petit mot, ça coûte de l'argent, on a dit, hein, c'est des chaussures qui ont un certain coût. C'est quoi votre budget? Vous vous donnez une limite par mois ou tout est possible s'il y a un coup de cœur?
Ouais, je compte pas. Alors moi, déjà, de base, hein, j'essaye d'éviter d'acheter des paires au-dessus de 200 euros. C'est ma limite psychologique. De 200 euros la paire, je dis ouais, ça commence vraiment à piquer, alors que j'ai des gens que je connais qui sont capables de s'acheter des paires à 800-900 euros sans problème. Parce qu'il faut bien comprendre, hein, qu'il y a le marché qu'on appelle retail, qui est le marché officiel, hein, les paires qu'on trouve en boutique. Et puis après, il y a un marché parallèle, en fait, un marché gris qui s'est monté avec des gens qui vont acheter des paires dans les boutiques et puis qui vont après les revendre. Moyennant petite commission. Ouais. Voilà, moyennant une commission de passage. Donc c'est de la pure spéculation. Il y a des paires qui valent 200 euros le jour où elles sortent, et une heure après, elles sont déjà revendues à 800 euros et des gens les achètent. Hein.
Après, s'il y a des gens pour les acheter, hein, j'ai envie de dire.
Alors je vais même vous dire, la concurrence maintenant pour les enthousiastes. Avant, on était plutôt tranquille, on était dans notre coin. À Paris, on n'avait pas trop de soucis. Maintenant, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acheteurs qui viennent de pays comme la Russie ou la Chine et qui sont capables d'acheter des sizings entiers, c'est-à-dire un modèle dans toutes les tailles en une fois. Voilà. Et donc, on peut pas trop lutter par rapport là-dessus. À ces gens-là.
Mais bon, il y a moins le côté plaisir, il y a moins le côté ludique aussi, peut-être, quand on y met trop d'argent. C'est mon avis.
Après, effectivement, il y a des gens qui sont vraiment dans la possession pour la possession, d'autres qui sont très enthousiastes. Et moi, par exemple, je préfère avoir une paire que moi je trouve sympa et que j'ai payé pas trop cher, plutôt qu'une paire qui va plaire à énormément de monde et qui coûte des fortunes, parce que je vois pas l'intérêt, en fait, de mettre 1000 euros dans une paire. Moi, c'est pas possible. C'est vraiment pas mon délire. Du coup, j'ai pas de budget réel, en fait. Par exemple, ce mois-ci, j'ai dû acheter 3 paires. Le mois d'avant, j'en avais pas acheté une seule. Le mois précédent encore, j'en avais déjà dû en prendre deux. En fait, ça dépend. Et en termes de prix, là, la dernière paire que j'ai achetée, elle m'a coûté 36 euros, quoi.
C'est bien, c'est raisonnable. J'aime bien.
Ah ben oui,
maman doit être contente.
J'ai vu la paire. J'ai dit, ah oui, ça trouvait sympa celle-là quand elle est sortie. J'ai vu le prix. Je dis, oh, bah, 36 euros, je ne réfléchis même pas. Voilà, allons-y.
Merci, merci beaucoup Daz d'avoir été avec nous, d'être venu nous parler donc des sneakers. Nouveau mot peut-être pour certains, les baskets, hein, si jamais vous nous rejoignez. Vous voilà. Dites, c'est quoi les sneakers? C'est les baskets, c'est le nom.
Chaussures
de sport. Bonne soirée à vous, merci d'être venu sur France Bleu.
Eh ben, merci à vous, bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Vos passions les plus folles, c'est le sujet d'On se dit tout ce soir. Alors folle, vous allez me dire, non, pas pour moi, puisque moi c'est ma passion et j'assume complètement. Mais pour ceux qui écoutent l'émission ce soir, peut-être qu'effectivement vous allez trouver ça un peu bizarre. Et alors ce qui arrive, c'est très bizarre. C'est Charles qui est avec nous depuis Poitiers. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Alors vous, vous faites des combats de sabre laser.
Oui c'est ça, c'est
mais
ça.
Mais bien des... sûr.
Mais bien sûr, mais bien sûr.
Et comment ça a commencé cette histoire? Sabre laser comme dans Star Wars?
Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, ça a commencé forcément aux États-Unis. Et c'est arrivé il y a quelques années, enfin, il y a très peu de temps en France. Le premier club a ouvert, je crois, il y a 2 ou 3 ans à Paris. Puis après, ça se diffuse petit à petit.
C'est vraiment des clubs? C'est-à-dire que c'est des compétitions? C'est des règles qui sont imposées?
C'est un petit peu plus compliqué que ça. Pour ça, il faudrait que ce soit mon président dans l'association qui vous en parle. Mais ça, disons, comme c'est un sport un peu nouveau, chacun se fait un petit peu comme il le pense. Donc on a plusieurs... chacun avec son propre passé essaie de faire en sorte d'être le plus proche possible, on va dire, de l'univers Star Wars.
C'est-à-dire que vous, à la base, Charles, si je comprends bien, vous êtes un fan de Star Wars.
Oui, 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 il faut être un. Enfin, c'est vraiment un sport de geek pour des gens qui veulent se remettre au sport et qui prennent pas forcément au sérieux, voilà.
Oui, oui, c'est voilà. Du sport, mais on rigole quand même.
Oui, oui, voilà, voilà.
On est costumé ou on est en sport?
Non. Tenue de sport privilégié, il y a quand même ça reste un sport avec ça reste un sport de combat, un sport de contact.
Qui se joue, ça pour ceux qui connaissent pas, et j'en fais partie, hein, je suis la première, ça s'apparente à quoi? À l'aïkido, à l'escrime?
Non, c'est vraiment, alors il y a 7 formes de combat.
Ouais.
Qui donc ça a été mis ça dans le, on va dire, dans l'univers, et chaque forme de combat représente un peu se rapprocher d'un certain art martiaux, de certains arts martiaux, je dirais bien de chez nous, si on peut dire.
D'accord.
Par exemple, la forme 1 qui se rapproche davantage du kendo. Donc le kendo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un art martial asiatique avec arme.
Avec un bâton, ouais.
Voilà, la forme 2, on est plus proche de l'escrime à la française. Et après, les formes 3 jusqu'à 7 sont plus des formes, je dirais, près de combat un peu plus libre.
Et alors, à aucun moment, vous avez eu envie de venir avec votre masque de Dark Vador pour l'entraînement?
J'ai pas envie de le casser.
Ah oui, d'accord, vous êtes un puriste, en fait. Hein.
Parce que faut savoir que donc, les sabres laser tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est une lame à peu près, donc c'est une poignée en métal, hein, comme grossièrement une grosse lampe électrique. Une grosse lampe torche, concrètement. Et par-dessus, rajoute un tube de polycarbonate. Donc, c'est les mêmes matraques que des CRS.
Et ça se casse pas, alors?
Il y en a qui ont essayé, qui ont du béton, et ils ont pleuré après.
Ah, d'accord.
Voilà.
Et est-ce que est-ce que votre entourage comprend votre passion pour les combats en sabre laser?
Bien sûr, c'est vraiment l'histoire de... Bah, de passer un moment avec des gens sympas, on rigole un bon coup, mais à côté de ça, on fait quand même du sport. Ça reste un sport, mais ça change un peu des sports, je dirais, sérieux, qui sont connus.
Ouais. Est-ce qu'un jour, il y aura une fédération du sabre laser en France, ou est-ce
c'est
que ça
notre
reste?
C'est notre souhait à tous d'avoir une fédération nationale. Mais ça reste un petit peu compliqué.
J'imagine aux Jeux Olympiques. Et voici la compétition de combat sabre laser.
Oui, mais dans sabre laser, il n'y a pas que la version combat, il y a aussi toute la version, je dirais, presque chorégraphiée. Ouais. Où là, on est plus proche de l'esprit des films que du combat, je dirais, plutôt terre-à-terre.
En tout cas, on a eu du plaisir à découvrir qu'il y avait des combats en sabre laser. à Poitiers et partout en France. Merci beaucoup, Charles.
Je vous en prie.
Bonne soirée à vous.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Et on parle de vos passions ce soir, et c'est passionnant, bien sûr, de vous écouter, nous en parler. On a parlé de quoi depuis le début de l'émission? De Lego, on a parlé de chaussures, on a parlé, je regarde en même temps, de roller derby, et on va parler maintenant de cosplay avec Pauline. Bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Alors il y a plein de gens qui viennent de se dire, hein, qu'est-ce qu'elle a dit la dame? Le cosplay, c'est quoi ça? Expliquez-nous ce que c'est le cosplay, Pauline.
Alors le cosplay, c'est un hobby qui consiste à jouer le rôle d'un personnage réel ou fictif, en réalité, en reproduisant son apparence physique, donc l'apparence du personnage qu'on a choisi, que ce soit les vêtements, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, les signes physiques distinctifs, mais aussi en jouant le rôle du personnage, en reproduisant sa gestuelle, ses actions, ce genre de choses.
Vous dites personnage réel ou fictif, j'ai l'impression que c'est souvent quand même personnage fictif, non ?
Oui, c'est beaucoup du personnage fictif. Le cosplay est né aux États-Unis en 1939 et c'était des fans de science-fiction qui l'ont inventé sans savoir que c'était du cosplay puisque à l'époque, lors des conventions de science-fiction, les participants se faisaient des costumes futuristiques, comme ils disaient. Et c'est un Japonais qui a inventé le nom cosplay dans les années 80. Donc c'est vraiment une activité qui est très liée à la culture geek, aux cultures de l'imaginaire.
C'est rigolo, j'aurais jamais imaginé que ça venait des États-Unis. Moi, je pensais vraiment que c'était le Japon.
Et ben, en fait, en France, le cosplay est arrivé par la culture japonaise. Du coup, on pense toujours que ça vient du Japon, mais pas du tout. Ça vient des Américains qui ont d'ailleurs une énorme culture d'Halloween. Les pays anglo-saxons sont très, très sérieux avec Halloween. Ça rigole pas. Du coup, ils sont quand même très sérieux avec les hobbies qui tournent autour du déguisement.
Alors oui, vous dites déguisement, c'est plus un costume qu'un déguisement, non ? Si j'en crois, pour avoir déjà vu, faut vraiment respecter tout ça, non ?
Non, pas du tout. Le mot déguisement en français, c'est l'équivalent du mot costume aux États-Unis. Le mot costume tel que nous on l'utilise quand on parle de cosplay, l'équivalent français, ça serait déguisement. On ne parle pas du costume comme d'un costume régional ou d'un costume qui renverrait à une profession particulière.
Mais moi, quand j'imaginais déguisement, c'est que pour moi, c'est wow, on fait un peu n'importe quoi. Dans le cosplay, on ne peut pas faire n'importe quoi.
C'est un mot très péjoratif pour les cosplayers, alors que ça ne devrait pas, puisque au niveau de l'étymologie, le déguisement vient du carnaval, de se déguiser en guise d'eux. Et c'est réellement ça, on se déguise. Alors on est sérieux ou on ne l'est pas, le cosplayer n'a pas l'obligation d'être très sérieux avec son costume. Vous avez des cosplayers qui vont faire des concours et qui vont effectivement reproduire au détail près la tenue et le physique de leur personnage préféré. Mais vous en avez beaucoup aussi qui vont le faire que pour leur plaisir et qui vont s'amuser avant tout. Et s'ils ont une perruque pas tout à fait de la bonne couleur ou des chaussures qui ne sont pas exactement les mêmes, personne ne leur en voudra.
D'accord. Et alors vous, vous vous déguisez, puisque du coup j'ai le droit de le dire, vous déguisez comment ? C'est quoi vos personnages en cosplay, Pauline ?
Alors moi, j'en fais depuis 17 ans. Du coup, j'ai beaucoup de personnages qui me plaisent. Là, je viens de finir un costume de Mario un peu sexy. Du coup, j'aime bien celui-là. J'aime bien mon Sailor Dark Vador, qui est donc un mix de Sailor Moon et Star Wars, que j'ai sorti il y a 2 semaines. Mon costume préféré de tous, c'est celui de Lady Loki de l'univers Marvel, les comics Marvel. Je ne sais pas si vos auditeurs connaissent bien l'univers Marvel, mais on a Loki, le méchant frère de Thor, qui dans les films est joué par Tom Hiddleston et qui dans les comics, pendant quelques temps, est une femme. Se retrouve à l'extérieur du corps d'une femme très sexy. Et du coup, moi, c'est cette version-là que j'incarne avec une combinaison en faux piton un peu brillant synthétique tout de même, avec des petites cuissardes en cuir marron, des cornes en or et une cape en fourrure blanche.
Et ce sont des costumes que vous faites vous-même ? C'est vous qui faites tout de A à Z ?
Tout à fait. Alors, j'essaie de tout faire. Généralement, je fais tout. Très rarement, je vais demander de l'aide. C'est le cas des cornes de Loki. C'est la seule chose que j'ai pas réalisé en 17 ans de cosplay, mais les cornes, j'arrivais pas à les faire symétriques. Du coup, en désespoir de cause, j'ai fini par acheter des cornes sur Internet après le 3e essai. Je réalise tous mes costumes moi-même, que ce soit coiffer les perruques, coudre des corsets ou recouvrir des chaussures de cuir, de strass, de ce que vous voulez.
Wow. Et vous faites des concours ou c'est pas votre truc?
J'en fais encore quelques-uns. C'est moins mon truc aujourd'hui. Moi, j'aime bien les juger, les concours. J'aime bien être juge de cosplay. Je trouve que c'est une occasion unique d'échanger avec des cosplayers qu'on ne connaît pas beaucoup, de les encourager, d'encourager ceux qui viennent d'arriver à se dépasser, à aller plus loin, et surtout à pas avoir peur de la scène, à pas avoir peur du regard des autres cosplayers à se lancer. Puis ce que j'aime le plus, moi, c'est présenter les concours. J'adore ça. Pareil, j'aime encourager les cosplayers, partager un moment avec le public.
Et surtout, je le dis à ceux qui nous écoutent, si vous en croisez dans la rue, quand il y a des rassemblements, n'ayez pas peur. Hein,
n'ayez pas peur, oui. c'est comme le carnaval en fait.
J'ai déjà vu des gens un peu surpris, genre « qu'est-ce que c'est ?» Et ça
le
fait toujours un peu peur.
Le RERB à Paris, en week-end de Japan Expo, le RERB est pris d'assaut par les fans en costume. Et c'est vrai que certains utilisateurs du RER ont un peu peur, mais il y en a beaucoup quand même qui ont l'habitude et qui se disent « Ah, ça y est,
ouais,
c'est les jeunes en costume japonais.
» Merci beaucoup, Pauline, d'être venue nous parler du cosplay et de nous avoir expliqué l'histoire aussi du cosplay. C'est intéressant. Votre passion à vous. Merci encore et bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Au revoir, Pauline.
Au revoir.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout.
Vos passions les plus étranges, c'est le sujet d'On se dit tout ce soir sur France Bleu et jusqu'à 22h. Enfin, quand je dis étrange, c'est pas étrange, mais disons que c'est pas commun, on va le dire comme ça, ou alors c'est que ça suscite souvent des réactions. On va parler de bière tout de suite avec Martin. Bonsoir, Martin.
Bonsoir.
Vous êtes passionné par les bières, mais les bières artisanales, c'est pas tout à fait pareil.
Oui, tout à fait. Artisanale, et je me rajouterais même bière artisanale et indépendante, puisque il n'y a eu pas vraiment de consensus sur la notion d'artisanat et la notion d'indépendance. On y est aussi très attaché, en tout cas parmi les gens avec qui je partage cette passion.
Ça veut dire quoi, indépendant? Quand on est brasseur indépendant, ça veut dire qu'on ne dépend d'aucune marque connue, c'est ça?
C'est à peu près ça, oui, voilà, c'est une indépendance. Alors après, parler d'indépendance financière, c'est toujours un petit peu compliqué. Moi, j'ai pas le nez dans les comptes des brasseurs, mais en fait, c'est indépendant par rapport aux gros industriels de la bière qui sont dans une situation quasiment monopolistique. Hein. Vous avez AB InBev qui est le plus gros groupe agroalimentaire du monde et qui est dans la bière et qui détient énormément de marques. Et nous, on essaye de se rapprocher de bières qui ne sont pas, enfin, de brasseries qui ne sont pas rachetées par ces grosses marques et de distributeurs. Et de cavistes aussi, parce que quand on la bière, il n'y a pas que les brasseurs, il y a tout le réseau.
Comment ça vous est venu, cette passion, Martin? Vous n'êtes pas levé un matin en vous disant « Tiens, je vais être passionné par la bière artisanale. » Qu'est-ce qui s'est passé?
Ça a été, je pense, comme beaucoup de passions, ça a été vraiment petit à petit. Hein. C'est-à-dire qu'au début, moi, je m'intéressais à la bière avec le rayon supermarché du supermarché du coin qui était relativement correctement fourni. Puis ça m'amusait et après, de fil en aiguille, j'ai vu « Tiens, il y a une cave à bière sur mon lieu de vacances. On va y aller parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu avec des potes et on va pas se prendre un pack à la con au supermarché. » Donc voilà. Et là, on nous conseille une super bière. Je découvre ce que c'est que la bière artisanale. Mais vraiment, voilà, vraiment par hasard. Et puis après, de fil en aiguille, comme j'habite pas loin de Paris, il y a quand même déjà pas mal de lieux, ça fait maintenant 4-5 ans, il y avait déjà pas mal de lieux qui avaient une belle sélection, et ensuite ça reste un petit milieu, et il y a tout ce côté communautaire là qui m'a rattrapé, et donc voilà.
Mais est-ce que le goût de la bière est vraiment différent? C'est le goût qui vous attire, ou est-ce que c'est la démarche qui vous plaît? Ou est-ce que c'est un mix des deux, finalement?
En fait, au tout début, ça a été le goût, vraiment. Hein. C'était c'est vraiment, il y a quelque chose de différent. Alors pas fort. Enfin, c'est-à-dire que on a eu. Alors maintenant, ça commence à changer, mais enfin quand même, quand la bière artisanale a commencé à pointer le bout de son nez en France, on sortait vraiment de plusieurs années de standardisation. En tout cas, dans les endroits où c'était simple de trouver de la bière, vous aviez vraiment toujours la même gamme, typée belge à 6,7 degrés, typée allemande à 5 degrés, puis avec toujours le même goût. Et en fait, la bière artisanale, que ce soit, moi je trouve ça meilleur, mais surtout en plus, vous avez vraiment toute une gamme qui va s'ouvrir incroyable avec des choses. Enfin, vous avez une palette complètement dingue. Et en fait, donc c'est ça qui m'a attiré au début. Et ensuite, après, il y a eu, je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait derrière, vraiment des gens passionnés, un mouvement. Je ne sais pas si c'est le terme, mais il y a quand même une sorte d'émulation, en tout cas en France, et même si on est un peu tardif par rapport à l'Europe et surtout aux États-Unis, mais il y a une vraie émulation qui est très agréable. Et surtout, j'ai eu l'impression d'être quand même là un petit peu au début de cette émulation, même s'il y a des brasseurs artisanaux français qui sont là depuis de plus de 20 ans.
Mais vous disiez tout à l'heure que c'est un petit milieu, ça veut dire qu'on échange beaucoup entre amateurs de bières artisanales, on se donne des conseils, on se donne des bonnes adresses aussi, on échange sur les bières?
Oui, alors oui, tout à fait. Alors il y a vraiment ce côté communautaire qui est hyper agréable, c'est-à-dire que moi typiquement à Paris, où ça reste encore quand même un petit milieu. On connaît souvent les nouvelles têtes. Je connais la plupart des cavistes à Paris, la plupart des bars à bière artisanale, j'entends, parce que c'est quand même particulier. Je les connais, c'est des amis, on discute de telle ou telle bière. Ce qui est très bien, c'est que la plupart des brasseurs français, j'ai été amené à les rencontrer, mais je veux dire, je suis pas particulièrement un professionnel ou quoi que ce soit. J'ai été amené à les rencontrer, à discuter. C'est quand même super agréable de discuter avec quelqu'un dont tu apprécies le produit, de savoir que tu donnes tes sous à quelqu'un qui croit en ce qu'il fait et qui est très sympa. Et ça c'est super agréable. Et je pense que c'est pas pareil, c'est pas possible partout. Heureusement, on a quand même ça. Et puis oui, il y a on organise des dégustations entre amateurs. Il y a aussi tout un pan que moi je connais un peu moins, qui est le brassage amateur, les gens qui brassent chez eux.
Ah mais j'allais vous poser la question, vous faites pas ça alors en fait?
Alors non, moi je l'ai fait deux fois, vraiment de manière très anecdotique, mais c'est vrai que c'est lié, hein. Il y a beaucoup d'amateurs de bière qui brassent chez eux, et là c'est pareil, il y a vraiment un côté très communautaire, ils s'échangent énormément d'astuces, de recettes, de tout ce que vous voulez, donc ça c'est toujours très sympa.
Est-ce qu'il y a des régions de France plus dynamiques que d'autres pour la fabrication de bière artisanale? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui telle région c'est vraiment le berceau de la bière artisanale en France?
Je dirais historiquement et traditionnellement, c'était quand même plutôt dans le nord de toute façon. Hein. D'abord parce qu'il faisait trop moche pour faire du vin, et aussi parce que la proximité de la Belgique faisait que. Maintenant, il y a vraiment une émulation un peu partout. C'est assez sidérant. Hein. Rien que en région parisienne, vous en avez plein. Hein. Bon, même si avant la guerre, il y avait déjà quelques brasseries à Paris, mais elles ont toutes fermé entre deux guerres, un peu grâce aux grands groupes, donc à cause évidemment des grands groupes dont je parlais tout à l'heure qui ont pas aidé. Mais là, je dirais quand même l'émulation est assez partagée. Enfin, moi, je suis avocat et dès que je vais en audience en province, je me renseigne sur quelle est la petite cave à bière du coin et c'est très rare que je trouve rien. Il y en a vraiment partout maintenant. C'est assez sympa, des brasseries, des caves et surtout des passionnés.
Il y a des brasseuses aussi, ça se dit ça?
Ah oui. Ouais. Ah oui, bien sûr. Oui. Bah déjà, il faut savoir que très historiquement, traditionnellement, mais alors vraiment, je vous parle de ça, il y a plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, c'était un métier de femme, hein, brasseur. Donc, ou brasseuse, du coup. Et oui, il y en a plein, des très talentueuses, d'ailleurs, je sais pas, moi, je pense, je sais pas si on a le droit de citer de marque.
Non, pas trop.
Non, il y en a plein, voilà, vous chercherez.
Il y en a plein, ok. Mais c'est génial, enfin, je sens à quel point vous êtes passionné par le sujet, on pourrait faire une émission à chaque thème ce soir, hein, depuis le début, c'est comme ça. Merci beaucoup Martin d'être venu nous parler de bière et de bière artisanale, et on se renseigne bien, et on n'hésite pas à demander à son caviste, et on n'hésite pas à découvrir aussi, à le partager. Bonne fin de soirée à vous Martin.
Bonne fin de soirée. Il y a la Paris Beer Week du 5 au 13 mai. C'est une association, donc c'est pas grave d'en parler, à but non lucratif, qui se passera à Paris avec justement plein d'événements un peu partout. Donc n'hésitez pas à vous renseigner.
Ah bah super, merci du conseil pour les Parisiens. À bientôt,
avec
Martin.
Avec grand plaisir. À bientôt, au revoir.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et jusqu'à 22h, on parle de vos passions dans On se dit tout. Des passions étonnantes, des passions surprenantes, des passions fascinantes, même on peut le dire. C'est le cas de Dominique qui est avec nous depuis la Bretagne. Bonsoir Dominique.
Bonsoir ma très chère.
Bah dites donc, quelle entrée en matière. Alors vous êtes fan de tempête?
Tout à fait, enfin l'eau, enfin j'adore l'eau, l'élément liquide en particulier.
Ouais, donc vous aimez la mer déchaînée les jours de tempête.
Voilà, ben l'eau sous toutes ses formes d'ailleurs, sous toutes ses formes.
Même
notamment
quand
les tempêtes pour le spectacle.
Ça a commencé comment cette passion pour les tempêtes, pour l'eau, mais pour les tempêtes en particulier?
Pour l'eau, ben j'étais 11-12 ans pour l'eau, je parle de l'eau proprement dit. Et en ce qui concerne les tempêtes, on peut dire 5-6 ans après avoir un...
À l'adolescence.
À la majorité, voilà.
Oui, à la majorité. Ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes un chasseur de tempêtes. Vous allez là où il y a des tempêtes?
Eh ben, quand je peux, oui. Quand je suis sur place, j'y vais le plus possible. Tout à fait.
Alors vous qui êtes en Bretagne, c'est quand même souvent par là que les tempêtes arrivent.
Bien évidemment.
Elles sont plus belles en Bretagne?
Non. Enfin oui, elles sont pas mal. Elles sont magnifiques. Mais il y a au Portugal aussi, il y a pas mal d'endroits où il y a des sites, à travers le monde, il y a des sites super pour les tempêtes, voilà. Mais en Bretagne, en l'occurrence, et dans le Ratzin, la Pointe du Raz, c'est un site exceptionnel, de premier ordre, je dirais.
Mais comment ça se passe? C'est-à-dire que vous observez la météo, vous êtes à l'affût, vous savez que là, il y a une dépression et qu'il va y avoir une tempête?
Ah ben la météorologie, hein, bien évidemment. Donc on voit le temps de la veille, on voit à peu près ce qui se prépare, plus les prévisions qui sont aujourd'hui relativement bien affinées.
Ouais.
Et en fonction des vents et du sens du vent, bien sûr, on choisit l'endroit. Si c'est des vents de sud ou de nord ou de nord-est, enfin voilà.
Mmh.
Parce que les plus belles tempêtes, c'est lorsque les vents sont de surroi.
De Suroît.
Sud-ouest, Suroît, enfin sud-ouest, voilà.
D'accord. Et alors, vous faites quoi? Vous regardez uniquement ou vous faites des photos? Vous captez tout ça?
Quelques photos, un peu de vidéos et surtout le plaisir en direct, quoi. Le plaisir des yeux, c'est voilà, comme au théâtre.
Le théâtre de la nature, on va le dire comme ça. Est-ce que parfois vous avez eu peur? Parce qu'on voit des images quand même assez impressionnantes de tempêtes ou même parfois il y a des catastrophes. Est-ce que vous avez eu peur parfois, Dominique?
Ça m'est arrivé. Bon, après, on fait attention. Mais oui, j'ai déjà failli me faire cueillir, comme on dit, me faire cueillir par une lame. Mais bon, après, on fait attention, mais on n'est jamais à l'abri. Quoi. Il faut pas trop s'approcher, tout simplement.
Non.
Prendre des dispositions, mais bon, voilà, des fois, la passion l'emporte et certains s'approchent un peu trop près.
Votre plus grand souvenir de tempête, c'est laquelle?
Ah, je dirais, c'est celle de 99.
La tempête Xynthia?
Voilà. Non, c'est avant Xynthia. 99, c'est pas Xynthia, c'est...
C'est plus tard, Xynthia.
Xynthia, c'était dans le sud, c'était bien après. Non, on parle de 99.
Je sais plus quel nom elle avait, c'est assez rigolo d'ailleurs à chaque fois qu'on nous mette un nom sur le dos. Hein.
J'ai plus le nom, par contre je me rappelle bien de 2014 notamment, là, 2014, où ça avait fait d'ailleurs pas mal de dégâts au niveau de la côte.
Ouais.
Parce que bon, il y avait le plaisir des yeux, mais malheureusement il y a eu les dégâts en conséquence. Hein.
Ça va souvent avec.
C'est le prix à payer, quoi. Bon, voilà.
Bon, là, ça va, c'est calme en ce moment. Vous n'êtes pas trop triste, Dominique?
Non. Parce que, comme je vous dis, bon, j'adore la tempête, j'adore ce temps-là, mais j'adore également le plaisir de voir l'eau. Ça change. Et ce qui est bien, c'est les marées, c'est la mer. C'est ce spectacle permanent qui n'est jamais, voilà, la vue n'est jamais la même.
Dominique, merci d'être venu nous parler de votre passion des tempêtes ce soir sur France Bleu dans On se dit tout. À bientôt, j'espère.
Hein. Et les prochaines tempêtes, je pense, maintenant, pas avant la fin de l'année, logiquement. Donc, il va falloir être patient.
Oui, soyons patients. Laissons passer l'été quand même. Profitons-en. Ouais.
Non,
ça
mais on n'est pas pressé, on n'est pas pressé.
Non,
pas
surtout pas. À bientôt, Dominique.
Allez, bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et on va terminer cette émission sur les passions avec des jeux. En même temps, on a beaucoup joué depuis le début de la soirée. C'est un petit peu ça aussi quand on est passionné. C'est ludique, on a envie de le communiquer à tout le monde. Et c'est Joe qui nous a rejoint sur France Bleu. Bonsoir Joe.
Bonsoir Vanessa, comment ça va?
Ben ça va très bien, j'ai passé une excellente soirée et on va la finir avec vous. Vous qui êtes passionné de jeux pour les trentenaires, c'est bien ça?
De jeux, de jouets même pour être plus précis.
De jouets?
Pas de jeux de société, pas de... Non, vraiment de jouets, de figurines articulées. Avec lesquels on peut s'amuser quand on est enfant et qui pour moi petit à petit sont devenus ce sont plus des jouets avec lesquels je joue parce que ça serait quand même un petit peu bizarre mais qui sont devenus des objets un peu fétiches que j'expose que je photographie avec lesquels j'essaye
ah
de...
oui alors c'est pas les jouets pour les trentenaires, c'est les jouets des trentenaires en fait.
Voilà.
C'est les jouets que vous aviez quand vous étiez petit et aujourd'hui que vous alors, avez envie de garder que... sans jouer avec forcément.
Pas que. Alors, j'ai eu une relation qui a un petit peu évolué au fil des décennies de ma courte vie avec les jouets. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'étais petit, j'adorais les jouets et les figurines. C'était vraiment. J'ai jamais joué aux petites voitures. J'ai jamais été très intéressé par le sport quand j'étais enfant. Ce qui m'intéressait, c'était les jouets. Au tout début des années 80, on est vraiment dans une période où le jouet est encore tout puissant, où les jouets sont rarement des adaptations de films ou de séries animées. C'est plutôt l'inverse. On crée des franchises de jouets qui sont ensuite adaptées en dessin animé pour soutenir les ventes de jouets. Mais en 1982-85, le jouet est vraiment tout puissant. Et moi, ça fait partie intégrante de ma vie. Et puis, quand on est arrivé à la préadolescence, c'est-à-dire une époque où généralement les enfants commencent à se désintéresser un peu du jouet, et moi j'ai continué à y être très attaché, mais mon attachement s'est transformé en quelque chose d'un petit peu différent. C'était plus vraiment de la... J'avais plus vraiment envie de posséder des jouets pour m'amuser avec, pour jouer avec, comme peut le faire un enfant. J'aimais l'objet.
Le regarder, le toucher, l'exposer.
Exactement. Et je m'intéressais de plus en plus au design, on va dire, à la manière dont ils étaient fabriqués. Je trouvais que j'étais dans une époque où je trouvais qu'être fabricant de jouets, ça devait être un métier magnifique, où on imaginait des choses et on essayait de les transposer en trois dimensions sur des figurines en plastique avec cinq points d'articulation. C'était quelque chose que je trouvais vraiment super. Et puis ensuite, j'ai fini par me désintéresser un petit peu du jouet durant mon adolescence et ma jeune vie d'adulte. Je continuais à en acheter de manière un petit peu sporadique, pas au coup de cœur, on va dire, parce que j'avais
gardé... Mais vous n'avez jamais jeté vos jouets d'enfant, hein. C'est bien, ça j'ai bien compris.
J'en ai pas jeté, mais fort malheureusement, j'en ai donné beaucoup à mes petits cousins. Que du coup,
il faut aller leur piquer maintenant.
Voilà, je sais même pas où ils sont. C'est ce qui a créé le problème dans lequel j'ai été il y a quelques années, c'est-à-dire que Pour vous faire l'histoire courte, je me suis rendu chez un ami proche qui est dessinateur et auteur de bande dessinée, qui s'appelle Bastien Vives, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup par ailleurs, et qui s'avère être collectionneur de jouets. Un collectionneur très sérieux. Il a vraiment une collection assez incroyable avec des pièces qui datent également des années 80. Lui, il est vraiment resté sur les jouets de son enfance. Et la première fois que je suis allé chez lui, que j'ai découvert cette collection de jouets, il y a un déclic qui s'est fait chez moi. C'est comme si, comme vous voyez, quand le personnage dans Ratatouille goûte la ratatouille à la fin du film, et ça le ramène.
Ah oui, d'accord, voilà, je vois le. Exactement. Oh,
exactement. Ben, quand je suis rentré dans la pièce de collection de chez Bastien, il m'est arrivé exactement la même chose. J'ai eu toute une sorte de flashback où je me suis dit mais c'est dingue, j'aurais jamais dû m'éloigner des jouets, et c'est redevenu une obsession beaucoup plus forte, puisque évidemment maintenant que je suis adulte, j'ai l'impression que je mets beaucoup plus d'affect dans mes passions, dans mes collections, et du coup je suis redevenu collectionneur de jouets. Alors au début, pour suivre un petit peu la trace, le chemin qui m'avait été tracé par Bastien, j'ai tenté de récupérer des jouets de mon enfance pour le plaisir de les avoir, cette fois-ci de les laisser dans leur boîte d'origine, parce que
c'est important la boîte. Enfin, il y a quelque chose d'important dans le fait d'avoir le jouet plus la boîte, plus l'emballage, le marketing, le packaging.
Alors pour des jouets, on va dire vintage, oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, je sais que si je récupère un maître de l'univers de 1982 dans son blister d'origine, je ne vais pas l'ouvrir pour jouer avec. Et au contraire, je serais très content d'avoir la boîte d'époque. Le truc, c'est que maintenant, aujourd'hui, j'achète aussi beaucoup de jouets modernes. Et là, du coup, je me place dans la catégorie des openers, comme on les appelle, qui sont un petit peu la tendance hardcore des gens qui achètent des jouets, c'est-à-dire les gens qui ouvrent leurs jouets et qui les souillent, du coup, puisque forcément, comme pour un disque vinyle, vous voyez, comme pour tous ces objets qui ont un côté un petit peu fétiche, à partir du moment où ils sont sortis de leur emballage, même si vous les gardez comme neufs, à partir du moment où le scotch a été coupé, le jouet perd tout de suite de sa valeur. Mais moi, j'en fais autre chose aujourd'hui de cette passion du jouet qui nécessite que j'ouvre les boîtes. Donc,
alors, j'ai une question très dure pour un collectionneur et un passionné comme vous, Joe, mais le jouet suprême, c'est quoi le meilleur, celui, à chaque fois que vous le voyez, vous dites, oh, celui-là, je l'adore. Ah, voilà.
C'est hyper difficile à dire, effectivement, mais je pense que, en tout cas, celui qui a avec lequel j'ai le plus d'affect, parce qu'il est directement lié à l'enfance, c'est certainement un jouet d'un personnage qui s'appelle Skeletor, qui était le grand méchant
dans Muscleur.
Ouais, voilà.
Ah, j'adorais. Par le spectre d'un tout-puissant.
Le pouvoir du crâne ancestral.
Voilà, c'est
exactement.
Ça.
Et c'est un exemple parfait de ligne de jouet qui a été créée.
Après le dessin animé?
Au tout début des années 80. Ouais. Et le dessin animé a été créé après.
Ah ouais, d'accord.
Pour soutenir les ventes de jouets. C'est-à-dire qu'il y avait des jouets et on s'est dit, bon, ce serait bien d'avoir un dessin animé histoire que les enfants puissent présenter de nouveaux personnages et les transformer en jouets. Mais à la base, c'est une série de jouets.
Faites un bisou à Skeletor, alors. Faites un bisou pour Skeletor de notre part. Et merci d'être venu partager votre passion des jouets. Joe, bientôt, la grande expo, on l'espère, international.
Ben voilà, hein, maintenant je les prends en photo, les jouets, donc peut-être que ça viendra.
Merci encore, bonne soirée à vous.
Bonne soirée, au revoir.
Merci, au revoir.